On est toujours sur les ondes de Choc FM. Aujourd'hui, nous sommes avec Corinne Barranger, qui est notre chroniqueuse en développement durable. Bonjour Corinne.
Bonjour Aki.
Comment ça va?
Ça va bien, merci.
Oui, alors Corinne, il me semble qu'aujourd'hui on part au Costa Rica.
C'est ça, un peu de destination exotique aujourd'hui.
Ah bah c'est bien, donc c'est ça change un peu de d'habitude. Donc pour une petite introduction, donc c'est un pays, pour nos auditeurs doivent très bien savoir ça aussi j'espère, c'est un pays donc d'Amérique centrale qui est reconnu aujourd'hui pour ses politiques et pratiques en matière de préservation de l'environnement et développement durable. Donc Corinne va nous en parler un petit peu. Donc Corinne, déjà on connaît la carte postale, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment en fait du Costa Rica?
Alors, donc le Costa Rica, donc pays d'Amérique centrale, pour le situer un peu plus précisément, donc entre le Nicaragua et le Panama, mais donc c'est un pays qui fait à peu près la surface de la Nouvelle-Écosse, pour donner un petit peu une idée, donc c'est vraiment pas un pays qui est très grand, et 5 millions de personnes vivent dans ce pays. 45% de la surface de ce territoire est couverte de forêts. Depuis quelques années, on a créé donc 28 parcs nationaux. Et donc le pays est entre les deux océans, hein, Pacifique et Atlantique. Mmh. Donc c'est, il est aussi connu parce que c'est le premier pays qui avait supprimé son armée. Et les fonds utilisés, donc qui ressortent de la non-utilisation pour l'armée, en fait, sont utilisés pour la santé et l'éducation. Donc, c'est un pays où plus de 90% de des habitants sont éduqués et il y a un système de santé, de protection qui couvre aussi tous les habitants. L'autre chose qui est aussi essentielle, c'est que les droits de propriété sur place sont très bien établis. On a légiféré là-dessus et c'est au contraire de d'autres pays où la propriété n'est pas toujours reconnue. Mmh. Ici, c'est très très bien établi. Okay. Donc, ça donne quelques atouts au pays dans ce sens-là.
D'accord. Et donc, pourquoi est-ce que le pays a décidé de prendre la voie du développement durable, en fait?
Eh bien, donc avant les années 80, donc le pays fonctionnait un petit peu comme fonctionne la majorité des pays occidentaux, c'est-à-dire que on garantit les prix dans le secteur agricole, hein, bien sûr un pays essentiellement vivant de l'agriculture, donc des prix garantis, des subventions élevées et des intérêts à des taux préférentiels. Donc ça pousse un petit peu à la production. Et poussant à la production, on a toujours besoin de plus de terres. Et bien la forêt en a vraiment souffert, quoi. C'était une déforestation galopante. Oh. Bon, il se trouve qu'en fait, tout a été freiné par une crise économique qui est survenue dans les années 80 et qui a mis le holà un peu à tout ça, puisque à ce moment-là, à partir du moment où la crise a un peu drainé toutes les finances publiques et plus de moyens de financer, de subventionner en fait les propriétaires. Okay. Donc, obligés de repenser un peu leur système. Et là, il y a eu peut-être une prise de conscience aussi, peut-être amenée aussi par les ONG à l'extérieur, puisque faut jamais oublier aussi que le Costa Rica, c'est 6% de la biodiversité mondiale, ce qui est énorme.
Oui,
donc, beaucoup d'ONG se sont toujours impliquées dans ces pays-là, hein, bien évidemment. Et donc, on a encouragé, à partir de ce moment-là, les propriétaires à exercer des activités d'entretien et de promotion de la forêt, en fait. Et l'engagement individuel du Costa Rica est venu du sommet de Rio, où là, ils se sont aperçus que s'ils attendaient la communauté internationale, ils en avaient encore pour des années à réagir. Donc, ils ont décidé un peu de prendre leur propre voie, en fait.
Ok, ah, c'est vraiment intéressant. Et donc, c'est quoi les mesures, en fait, un peu qui ont été adoptées pour encourager, justement, les pratiques durables?
Alors, le gouvernement a créé ce qu'on appelle le Payment for Environmental Service, PES ou PES. Donc, c'est un système qui fait que on indemnise en fait les propriétaires de terrains forestiers pour compenser la perte d'exploitation, puisqu'ils ne peuvent pas exploiter leur forêt comme le ferait un exploitant normal. Mm-hmm. Donc, on compense cette perte d'exploitation en même temps en protégeant les écosystèmes. Et puis, faut jamais oublier aussi que la forêt pleut énormément, donc c'est de l'eau potable. Et puis, ben, la production, l'absorption de CO2, bien évidemment.
Okay.
Ça, c'est essentiel dans la forêt. C'est quand même un des avantages de la forêt. Donc, ces activités étaient financées donc principalement sur une partie de la taxe sur les carburants, ce qui n'a pas été vraiment suffisant, vu que c'est quand même un petit pays, hein, bon, il y a 5 millions d'habitants, mais c'est pas un gros pays quand même, hein. Donc, on a aussi créé une taxe sur l'eau. L'autre chose que l'on a créée, je trouve qui peut être intéressant, c'est une carte bancaire. Bien sûr, tous ces systèmes se font par le biais d'organisations qui construisent des partenariats avec l'État, hein. C'est pas l'État lui-même nécessairement qui gère tous ces systèmes, hein. Ils travaillent en partenariat avec des banques ou d'autres organisations. Donc là, dans le cadre de la carte bancaire, donc c'est un partenariat avec une banque, et donc vous collectez des points comme on collecte des points sur toutes sortes de cartes au Canada. Et donc ces points sont donnés par la banque pour financer des activités qui vont valoriser les ressources et préserver l'environnement. Okay. Donc, voilà, donc ça c'est quelques-uns des systèmes qui, mais bien sûr il y en a d'autres. Hein.
Okay. Donc ça veut dire que la population quand même elle répond assez bien à ça, j'imagine.
C'est mitigé.
Ouais. Ah. Ok. En tout cas, ok. Mais je suppose, j'imagine que donc la mise en œuvre de ces pratiques, ça ne doit pas toujours être facile, quoi. Qu'il y a vraiment des défis quand même.
Ben oui, voilà, c'est ça. C'est que en fait, la taxe sur les carburants couvre à peu près que 25% en fait du montant qui est nécessaire pour indemniser donc les propriétaires, et donc il faut trouver d'autres sources. Donc on pense aux contributions bénévoles et puis d'autres provenant du secteur privé, ce qui est toujours à double tranchant, puisque le secteur privé a d'autres objectifs que, alors même si on le voit, beaucoup de sociétés internationales, moi je pense à des sociétés chimiques qui investissent dans le développement durable, quelque part ça sert à valoriser leur image en fait, en quelque sorte, et bon, se donner un peu bonne conscience, hein, mais donc c'est un peu à double tranchant, quoi. Et ça c'est un risque aussi pour un système stable, hein, pour une stabilité du système et une évolution dans le temps, puisque souvent les entreprises, si vous faites un partenariat avec une entreprise privée, eux leurs objectifs sont souvent à court terme ou éventuellement à moyen terme, mais on pense pas la vie de la planète, c'est pas bon le bilan qui va s'effectuer à la fin de l'année où il va falloir reverser aux actionnaires hein, des dividendes, etc. Donc c'est vrai que là ça peut créer des problèmes. D'autre part, il existe des inégalités au niveau de la surface des propriétés, bien sûr. Donc il y en a qui vont vraiment pas recevoir beaucoup et bon, vont vivre quand même dans la pauvreté, et d'autres qui vont bien vivre. Mais les deux gros problèmes en fait qu'il y a au Costa Rica, c'est le développement du tourisme, puisque le gouvernement a quand même besoin d'argent, hein, pour financer d'autres activités que les activités liées à l'environnement. Et donc on a décidé un peu du tourisme de masse sur les côtes, hein, puisque comme j'ai dit, c'est entre deux mers. Donc on a commencé quelque part à bétonner un peu, on passait des accords avec des grosses chaînes hôtelières américaines en particulier, et on a un peu bétonné les côtes, ce qui cause un problème, puisque là encore aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans un contexte, même si le marketing des entreprises se fait sur le développement durable, la protection de l'environnement, etc. Dans la réalité, on est dans du business et par exemple, l'eau n'est pas forcément recyclée, elle va directement dans la mer ou dans les fleuves. Il y a énormément de travail à faire. C'est une industrie en fait qui est assez polluante et qui rapporte en fait assez peu au territoire costaricain, puisque la majorité des bénéfices sont des sociétés privées, retournent aux États-Unis ou dans d'autres pays, bien évidemment. Okay. L'autre gros problème, c'est l'agriculture, puisque le Costa Rica, depuis les années 2000, est devenu l'un des premiers producteurs d'ananas.
Ah oui.
Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ces productions d'ananas sont faites à l'aide de produits chimiques extrêmement polluants, pour certains interdits en Amérique du Nord ou en Europe, et qui causent des dommages très importants, donc non seulement au sol, aux nappes phréatiques, mais à la population, à la santé de la population, et ça c'est vraiment une alarme. Il y a eu plusieurs reportages, j'ai vu plusieurs reportages là-dessus, c'est assez inquiétant. Parce que là, on déforeste ou on utilise les zones, puisqu'il y a d'autres styles de végétation hein, au Costa Rica, mais on dégrade complètement les sols avec ces productions d'ananas. Mais pour certains, c'est la seule façon de survivre aussi, de travailler dans ces propriétés, quoi.
Ok. Waouh. D'accord. Et donc aujourd'hui, Corinne, c'est quoi les nouveaux objectifs un petit peu?
Eh bien, le pays a décidé d'adopter un des plans mis en œuvre par les Nations Unies, qui s'appelle le Green Commodities Program. Et donc, le but est d'atténuer les changements climatiques. Hein. On va dans le domaine des changements climatiques et de préserver donc les écosystèmes. Donc là, c'est sûr. Bon, l'énergie, par exemple, utilisée au Costa Rica provient aujourd'hui à plus de 90% d'énergie renouvelable, l'hydro, l'éolien, etc. Donc c'est un très bon point pour le pays. Et a priori, la chasse et l'extraction minière, puisqu'il y avait eu quand même des matériaux, des minéraux de valeur aussi au Costa Rica, comme en Amérique du Sud ou dans le reste de l'Amérique centrale. Et le gouvernement a décidé de dire non à l'extraction minière, qui pose souvent d'autres problèmes. Hein, si on a de l'or, on est pollué avec les taux lourds, etc. Donc là, il y a quand même une réelle volonté de ce côté-là, mais c'est un peu ambigu parce que d'un côté, on maintient cette industrie par rapport à l'ananas et puis l'industrie hôtelière. Et on essaie de préserver. C'est jamais simple, de toute façon, de devenir complètement... pro développement durable. L'autre chose, c'est que le gouvernement s'est engagé à devenir neutre en carbone pour 2021. Donc ça, c'est en encourageant donc. Alors là, c'est un système de crédit en fait. Hein, les petits fermiers qui produisent localement, obtiennent des crédits carbone qu'ils peuvent revendre aux industries qui sont polluantes. Mmh. C'est un système qui existe dans certains pays. Le point fort de Costa Rica, c'est l'écotourisme. Donc, c'est vrai, par contre, si vous allez au Costa Rica dans un écologe, là, il va y avoir une réelle éducation, compostage, utilisation des eaux grises. On va vous éduquer et puis peut-être vous allez repartir avec des bonnes idées. Il faut quand même faire un petit peu attention. Le Costa Rica est un petit peu, je dirais, victime de son succès, puisque là, il y a eu un scandale à l'automne dernier. Il y a une plage où viennent pondre les tortues de mer, et il y a un tour opérateur qui a cru bon de promouvoir ce phénomène. Et donc, on s'est retrouvé sur la plage avec des centaines de personnes qui sont arrivées pour voir ces tortues, à faire des selfies avec les tortues, etc.
Oh là là.
Et ce qui fait que certaines tortues sont reparties, quoi, sans ponte, quoi, tout simplement. Donc, c'est un peu une catastrophe, quoi. Donc, c'est bien l'écotourisme, mais est-ce que l'écotourisme, c'est un tourisme c'est un tourisme de masse? Je pense que c'est plutôt un tourisme pour individuel et pour des petites populations. Et ça, c'est un peu le danger actuellement. C'est vraiment un gros sujet de réflexion, quoi. Est-ce qu'on peut faire un écotourisme de masse? Faut faire un peu attention. Et quand on va dans ces pays-là, penser un petit peu peut-être derrière, hein, tout ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça implique? Voilà. Mais en tous les cas, il y a une volonté du gouvernement, pour sûr, de vouloir rendre ce pays durable.
C'est ça, en fait. C'est pas des bonnes intentions, mais c'est pas si facile, quoi.
Non, c'est loin d'être facile. Oui. C'est loin d'être facile.
Okay. En tout cas, c'est honorable quand même que qu'ils mettent ça quand même en priorité. C'est assez. C'est une belle initiative.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais.
Okay. Super, super intéressant, comme à chaque fois. Merci beaucoup, Corinne.
Pas de problème, bonne journée.
Bonne journée, nous on reste sur les ondes de Choc FM 105.